Accès libre avec Luc Fortin.
Ah, pour ceux qui vivent dans le temps présent, là, ceux qui ne sont pas nostalgiques ou qui regardent toujours à l'avenir, mais ceux qui sont avec nous, là, ben c'est lundi midi. Et qui dit lundi midi, pour certains, dit accès libre, du moins pour Jean-Sébastien, Christiane et moi. J'espère que c'est la même chose pour vous. Ben, sinon, vous avez l'occasion de le faire quand vous voulez sur Balado. Monsieur La Liberté, bonjour.
Bonjour, Monsieur Fortin.
Je me suis pas fait couper les cheveux.
Ben, moi non plus.
C'est que mon beau-frère a failli mourir jeudi soir. Il est arrivé la même chose que Marilyn Turcot, sauf que lui, c'était chez eux, alors que Marilyn, c'était dans un resto. Inconscient, bleu, le morceau de steak passait plus, l'ambulance est venue. Finalement, il s'en est sorti, mais je me suis pas fait couper les cheveux.
On est quand même bien content qu'il ait survécu.
Oui, ouais, tout à fait. Mais c'était impossible de ne pas penser à Marilyn.
Absolument.
Tout au long de la fin de semaine pour une bêtise du genre. Je me pose toujours la question, comment se fait-il que dans un restaurant, il n'y a pas des gens qui ne sont pas obligés de connaître les techniques d'urgence dans ce cas-là. Aujourd'hui, il sera question, entre autres, d'une technologie pour nous aider, nous, personnes handicapées visuelles, à mieux connaître notre environnement, surtout s'il s'agit d'un environnement commercial. Il sera question de chèque emploi-service et de sport et loisirs adaptés. Et notre segment sport et loisirs adaptés, ben, on le fait avec Dom Tremblay. Dominique, l'Impact est toujours en mode série.
Ouais.
C'est quand même... écoute, on est début mai, puis ils sont encore là. Et c'est quand même une bonne saison pour eux.
Ben oui, c'est quand même pas pire.
Il faut ce qu'il faut.
Dominique,
bon, est-ce qu'on le dit aux gens? Dominique et moi travaillons très fort pour avoir un rendez-vous sportif, uniquement sportif. Mmh. On espérait le démarrer début avril, ici, sur les ondes de Canal M, avec... L'assentiment du... Je sais plus c'est quoi son titre, là. Il a changé. C'est rendu un titre pompeux que celui de Louis.
Mais... Chef d'antenne.
Chef d'antenne. Ah, oh, je m'attends... Ben, ça fait quand même très Radio-Canadien. Qui était non seulement très d'accord, mais qui nous a... Mais là, la situation est escalée. On est rendu début mai, puis il n'y a toujours pas de show de sport. Alors, on va continuer à faire appel à Dominique dans le cadre d'Accès Libre pour parler de sport adapté.
Et... Ça fait plaisir d'être avec vous.
Ben c'est gentil, d'autant plus que tu me disais que tu avais mis une réunion sur pause.
Ben oui, ben en fait, il y avait plein de gens de d'autres pays qui avaient aussi d'autres réunions, alors ça s'est terminé juste à temps, on est correct.
Bon, tant mieux, parce que Dominique, non seulement est ancien athlète paralympique, mais il est également directeur des opérations pour la Fédération internationale de boccia. Aujourd'hui, on voulait un petit peu justement connaître les conséquences et surtout, bon, on s'en va où avec le sport loisir québécois en termes de pandémie. Bon, commençons par les Jeux paralympiques, parce que il y a deux semaines, j'ai vu, appelons ça la santé publique nippone, les médecins officiels japonais dire « s'il n'y a pas de vaccin, nous, on ne sera pas en faveur de la tenue des Jeux en 2021 ». Et là, je me disais, c'est tellement plate pour un athlète de recommencer un peu à se poser la question, y en auras-tu, y en auras-tu pas, mais je dois quand même m'entraîner et donner mon 110. Qu'est-ce que ça implique de ne pas le savoir? Et toi, as-tu des nouvelles à savoir la tenue ou pas et les circonstances, les conditions? J'imagine qu'il est beaucoup trop tôt, là, mais...
Ben, en fait, nous, en termes... dans le cadre de mon travail, là, on y va vraiment, je dirais même au jour le jour.
Ouais.
Au début mars, c'était encore prévu pour moi de me rendre au Japon pour les Jeux paralympiques au mois d'août de 2020. Trois semaines plus tard, la pandémie en a décidé autrement. Maintenant, au moins, on le sait, donc les athlètes le savent, il y a une date,
ouais.
Le 24 août au 5 septembre 2021. Si tout va bien, si rien ne change, les Jeux paralympiques vont avoir lieu. Cependant, tout peut changer. C'est ce que la pandémie nous a appris. Il faut être capable de s'adapter et de voir, de mettre les choses en perspective. La santé des athlètes des spectateurs, de la population en général est plus importante que les Jeux olympiques, que les Jeux paralympiques, même si pour moi personnellement, c'est quelque chose de super intéressant et super important.
Mais de le savoir, c'est-à-dire de savoir d'avance qu'il y a déjà un nuage noir qui plane au-dessus de la tenue de l'événement, mais en même temps, de savoir qu'il y a des critères très précis, à savoir pas de vaccin, pas de jeu. Est-ce que ça aide ou ça nuit à l'entraînement, à la motivation?
Je pense que les athlètes, c'est sûr que l'incertitude n'est jamais quelque chose de très, très bon pour un athlète. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que les psychologues sportifs sont payés très cher pour les rencontrer. On dit souvent aux athlètes, mettez de l'emphase sur ce que vous êtes capable de contrôler.
Ouais.
Et ce que vous n'êtes pas capable de contrôler, on laisse couler, on laisse faire, on passe à d'autres choses. Donc, présentement, là, ils ont une date qui est mieux qu'il y a un mois et demi. Ils ne savaient pas si les Jeux auraient lieu. Là, ils savent que pour un an, tout est sur pause. Jusqu'à la fin de l'automne, tout est sur pause, probablement jusqu'en janvier, et que tout va recommencer. En attendant, on s'entraîne à la maison, on se garde en forme, on reste en santé, et puis on va être prêt pour 2021. Et ceux qui ont à décider décideront si c'est une bonne idée de tenir les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques au mois d'août de 2021.
A-t-on déjà décidé si les athlètes devaient se requalifier, s'ils ont déjà leur billet pour participer à l'événement?
Donc, de ce que j'ai compris, de ce que le comité paralympique a publié, les athlètes et les équipes qui avaient déjà obtenu leur qualification en date du déplacement des Jeux paralympiques, et la même chose pour les Jeux olympiques, là, gardent leur place pour la compétition. Donc, mais il restait quand même un nombre assez élevé d'athlètes qui n'avaient pas confirmé leur qualification, ce qui était par exemple le cas en natation et en athlétisme. Les deux sports les plus importants du mouvement paralympique en termes de nombre de médailles.
Je pense au sport par équipe, par contre, où souvent c'est un nombre de places limité. Si tout le monde est qualifié, c'est un peu démotivant de savoir que ça me donne rien de
En fait, pour les sports d'équipe, le pays est qualifié, donc le comité paralympique national est qualifié.
OK, ouais. Après ça, c'est de faire l'équipe.
Par exemple, le Canada a une équipe de basketball féminin et masculin de qualifiés. Même chose en goalball, ils ont une équipe féminine de qualifiés. L'équipe masculine ne s'est pas qualifiée. Donc, il reste à nommer les joueurs qui vont faire partie de cette équipe-là.
Ouais.
Et ils avaient durant l'été, là, les dates exactes varie d'un sport à l'autre, puis c'est pas nécessairement que les dates ont été rendues publiques à ce moment-là. Donc, ceux qui faisaient partie des pays déjà qualifiés, les athlètes continuent à s'entraîner, puis les entraîneurs vont les sélectionner le moment venu.
Mais c'est une précision très, très intéressante. Ça, effectivement. Donc, ça laisse de la place à tout le monde. On a parlé de certains sports, certaines équipes. Parlons des fédérations canadiennes en général. Est-ce que les choses suivent leur cours à peu près normal, mis à part le calendrier des épreuves?
Donc, en termes d'activité, je te dirais, un peu tout le monde est sur pause ou limite les activités. Parce que, bon, pour les fédérations nationales, c'est leur raison d'être, c'est de régir le sport au niveau national, de de faire des championnats canadiens et d'envoyer des équipes nationales un peu partout à travers le monde. Donc, il n'y a aucun voyage international qui est possible. Les athlètes ne peuvent pas s'entraîner et les compétitions internationales sont nationales ont été reportées ou annulées pour 2020. Donc, il reste le support aux fédérations provinciales. Ils peuvent faire des entraînements via des vidéos, faire des rencontres, des formations avec des officiels, des athlètes, offrir un support à des athlètes, des choses comme ça, mais c'est un petit peu réduit.
Mm-hmm. Est-ce que tu sais, Dominique, puis là, une question qui vient un petit peu champ gauche, là, mais dans les circuits professionnels où l'on veut vendre des billets et conserver l'attention et l'intérêt, parfois, lorsqu'il y a des grandes périodes d'inactivité, on les utilise pour réfléchir sur comment modifier le spectacle, peut-être rendre les règlements plus rapides, plus intéressants pour le spectateur. Est-ce qu'il y a des enjeux ou dans une ou dans des fédérations sportives qui sont en réflexion ou justement on se demande si oui ou non on va conserver la bagarre au rugby? En fauteuil roulant. Je dis des niaiseries, là, mais tu comprends ce que je veux dire.
Ben, il n'y a pas de bataille comme
non,
ça.
Non, je sais.
Je veux dire, des contacts.
Non, non, mais c'est une niaiserie pour dire comme le hockey va réévaluer certaines choses. Puis, est-ce qu'il y a des grosses évaluations importantes qui sont faites actuellement parce que l'occasion s'y présente?
J'ai pas eu la chance de poser cette question directement aux fédérations. Cependant, c'est le moment idéal pour les fédérations de revoir son fonctionnement, d'offrir des services peut-être différents, comme offrir plus de conférences en ligne, d'offrir d'autres supports en ligne. C'est sûr qu'au niveau provincial puis national, c'est un petit peu plus complexe parce que les règlements dépendent, par exemple, d'une fédération internationale ou des choses comme ça. Mais il y a certains sports qui ont modifié certains règlements ou qui ont apporté des choses intéressantes comme des compétitions à partir de la maison qui pourraient être utilisées ou ils sont amenés à repenser la façon dont le sport est pratiqué puisque quand ils vont recommencer, ils vont devoir modifier certaines choses. Ça va peut-être amener à une différente pratique. Et je suis sûr que les gens utilisent, les fédérations utilisent leur temps à bon escient pour optimiser leur sport. Ça, c'est clair.
Parlons financement. On pourrait penser que le fait que les fédérations ne soient plus obligées d'organiser des championnats nationaux ou d'assister dans la tenue de compétitions provinciales leur permet d'économiser. Pourtant, le ministre du Patrimoine et M. Trudeau ont annoncé vers la fin, jeudi ou vendredi dernier, 72 millions pour les différentes fédérations sportives canadiennes. Où est-il cet enjeu qui met à risque ces fédérations?
Pour deux raisons. La plupart des fédérations nationales retirent des revenus d'organisation de compétitions nationales ou de compétitions internationales. Donc, si ces compétitions-là ont été annulées, le revenu ne viendra pas. Par exemple, Tennis Canada a été obligé d'annuler les internationaux de tennis de Montréal et de Toronto. Ben, des revenus de commandite ne rentreront pas et ont été obligés de mettre beaucoup d'employés à la porte. Même chose pour les inscriptions. Un organisme comme Soccer Canada a des millions de joueurs ou des milliers de joueurs à travers le pays. Eux reçoivent un pourcentage de chaque joueur qui s'inscrit au soccer pour jouer cet été. Mais s'il n'y a pas d'activité de soccer dans les terrains municipaux, ben c'est un revenu qui disparaît. Donc, les fédérations nationales ont un manque à gagner en termes de d'accès à de l'argent comptant pour payer des employés ou payer le loyer ou payer le compte de téléphone.
Mais
donc, c'est pour ça que le gouvernement fédéral est venu pour les aider.
C'est probablement moins vrai pour le sport adapté qui, je présume, n'est pas aussi soutenu par des commandites ou par un nombre important d'inscriptions comme Soccer Québec. Là.
Mais ça reste que ils ont quand même des dépenses qui doivent continuer. Et ils ont quand même des employés à payer, des loyers à payer. Donc, c'est ces frais fixes-là que les organismes comme Bocce Canada ou l'association de basketball en fauteuil roulant ont reçu financement pour les aider. C'est sûr que c'est moins important que Tennis Canada ou encore Soccer Canada, mais ça reste quand même important, puis c'est ce montant-là qui vient les aider.
Est-ce que le gouvernement québécois, lui, a l'oreille attentive aux besoins des fédérations québécoises?
Les fédérations provinciales sont en constante communication avec le ministère de l'Éducation et des études supérieures. Présentement, puisque le déconfinement est une situation qui se passe au niveau provincial, donc chaque province est responsable, donc les fédérations provinciales et le ministère travaillent à un plan de déconfinement. Donc, les ressources, ils sont. Donc, toutes les fédérations sont divisées en 4 sous-comités. Donc, les sous-comités sont les communications, le financement, la santé et j'en ai oublié un, là, mais donc le financement en fait partie. Mm-hmm. Et les associations comme Parasport Québec et la QSPC font partie de ces sous-comités-là.
Bien, ça, c'est quand même bien. Au moins, pour une fois, on n'est pas obligé de revendiquer nos présences. Elles sont déjà là. Est-ce oui. qu'il y a des dates, des demandes précises? Parce que, tu sais, le déconfinement, selon la discipline, selon le besoin, jouer au soccer... Quand tu... ou j'essaie de penser, là... courir avec un guide qui va m'aider à courir, c'est pas la même chose que de jouer au baseball seul au champ gauche où là, c'est facile d'avoir le 2 mètres de distance.
Chaque sport doit travailler sur certains points. La distanciation de 2 mètres est important. Donc, les sports individuels extérieurs devraient être les premiers qui vont être regardés. Les sports d'équipe extérieurs vont être les seconds. Et par la suite, ils vont y aller un à la fois en essayant de trouver des choses qui sont importantes. J'ai parlé au directeur général de Parasport Québec qui disait que probablement que pour les entraînements, ça devrait, pour les sports intérieurs, ça devrait aller, selon lui, aux alentours du mois de septembre. Et juste les compétitions ne seraient pas avant le mois de janvier. J'ai aussi parlé avec la directrice de la QSPC, l'Association des sports pour paralytiques cérébraux. Et eux, c'est sûr que la santé des athlètes est primordiale quand on parle du contact avec les assistants sportifs ou les guides ou des choses comme ça, puis avec l'équipement pour s'assurer que tout le monde soit en santé puis que tout le monde, personne tombe malade. Ça, c'est la priorité numéro un. Donc, ils essayent de trouver des choses. Mais aussi dans les lieux, ça va changer aussi selon les lieux de pratique, comme les centres de réadaptation, des gymnases d'école, primaire ou secondaire, les centres sportifs, les centres nationaux d'entraînement. Tout ça va affecter comment le confinement va se dérouler.
Eh bien, et comme, comme l'image le démontre bien, on est comme en plein milieu de l'océan, on a beau regarder tout le tour, on ne voit pas de terre en vue, donc c'est difficile de travailler et de préparer des choses sans savoir. Dominique, bon, la semaine prochaine, on n'est pas là, mais le 25, on se parlera de loisirs et comment, bon, que ce soit camp de jour, que ce soit comment, justement, il y a des gens qui, en ce moment, travaillent pour essayer de trouver des alternatives pour nous permettre quand même de s'amuser un temps soit peu. Merci beaucoup d'avoir été là.
Ça me fait plaisir et on se voit dans 2 semaines. Au revoir. Here comes the helicopter, second time today. Everybody scatters and hopes it goes away. How many kids they've murdered, only God can say.
Une plume remplie de fiel de celle de, que celle de Bruce Coburn dans cette chanson. On n'est pas habitué, on le considère beaucoup plus comme un pacifiste, mais là, il y en avait plein les baskets. Christiane Campagna, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Je vais très bien, toi?
Oui, tu orchestres ça comme tu veux. On a une petite pause devant nous dans 2 minutes et demie.
Ben, je vais commencer par... en fait, c'est surtout ça que j'ai aujourd'hui, c'est différentes nouvelles du milieu, notamment le RAC qui nous annonce que enfin, on peut commander le guide auto-soins en format substitut, en média substitut, parce qu'ils avaient fait plein de tests auparavant. Chaque fois qu'ils appelaient, les personnes qui répondaient au bout du fil n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient, ne savaient pas comment faire. Et maintenant, donc, c'est réglé. Si vous appelez au 1-877-644-4545, vous pourrez faire votre commande au préposé et la commander soit en braille, en gros caractère ou en format audio. On vous demandera ensuite vos coordonnées pour vous expédier tout ça.
J'ai presque envie de le commander juste pour voir comment je serai accueilli, mais en même temps, j'imagine les quantités sont limitées. Mais ça m'intrigue. Donc, 877-644-4545.
Alors, comme tout ce qui concerne l'accès à l'information, il y a eu du délai.
Ben oui.
D'ailleurs, dans les dernières nouvelles de la COFAN, on en parlait, là, qu'on essaie de rappeler que notamment pour ce qui est du web, les standards d'accessibilité du web misent habituellement sur un délai de 48 heures pour une version accessible.
Mais c'est pas si pire. Si c'était le cas, ce serait pas si pire.
Oui, c'est ça. Donc, l'Office des personnes handicapées a rappelé aux différents ministères là, de tendre vers ce délai, même si parfois, il y a des choses, par contre, en fonction de la crise, dépendamment avec qui on fait affaire d'habitude, comme par exemple pour les capsules LSQ, que ça peut être un temps de production pour les producteurs externes qui sont un petit peu plus longues que d'habitude, mais que l'Office travaille avec eux pour réduire ces délais. Et qu'à l'avenir, on en parlait récemment, c'est que si les versions ne sont pas disponibles tout de suite, c'est de mettre une date d'indiquer que ça le sera.
Oui.
L'idée étant que les personnes sachent qu'on travaille pour rendre les choses accessibles plutôt que les personnes pensent qu'on les a tout simplement oubliées.
Et d'y retourner. Si Amazon est capable de me dire quand est-ce que je vais recevoir ci ou ça, on devrait être capable de nous dire quand est-ce que le médaillon avec l'interprète sera disponible. C'est tout à fait.
Exactement. Puis la COFAN a fait savoir qu'on avait connu des problèmes semblables dans le temps de la grippe H1N1, donc peut-être que cette fois-ci, il faudrait apprendre pour l'avenir.
Ben, ça fait juste 10 ans. C'est ça. 13, 30 secondes. Oh, 20 qui dit, lui.
20?
Ouais.
Écoutez.
15. Bon, mais regarde.
Les autres choses sont des plus longues listes.
Oui, bon,
mais
on va attendre une petite pause, puis je vous reviens avec Outlander saison 5 qui n'est pas en VD sur Ami Télé. Je reviens.
Vous écoutez Accès libre.
Vous dire que le 28 avril dernier, le syndicat québécois des employés de services a fait parvenir une demande officielle au ministre du Travail pour décréter là, les conditions de travail dans le secteur des services d'aide à domicile. On en parle dans la deuxième partie de l'émission. Il sera question également de Virtuose. Et je suivais Outlander, le chardon et le tartan, sur l'application ici tout.tv, aurais-je dû dire avant la pause. Les 4 premières saisons sont avec vidéo description et la plus récente, pourtant on pourrait penser le contraire, ne l'est pas. Et ça, malgré la loi depuis l'automne. C'est quand même particulier que les vieilles le sont, mais pas celles-là. Alors, on a écrit au producteur, on attend une réponse. Madame Campagnard, vous avez autre chose?
Oui, j'ai trouvé sur la page Facebook du CIVET toute une liste de ressources pour les personnes sourdes, autant des ressources du côté soutien que côté divertissement. C'était bien synthétisé, alors je vais vous partager ça. D'abord, on nous souligne que le programme sourd de l'Institut Raymond Devoir offre des idées pour passer le temps, divers conseils. Vous pouvez suivre leur page Facebook et aussi des résumés traduits en langue des signes québécoise des messages du gouvernement provincial. Du côté de la Maison des femmes sourdes, on offre des cafés-rencontres virtuels et différentes activités comme la danse disco ou de l'origami à distance. Mais on rappelle sur un ton moins léger aussi que vous pouvez toujours communiquer avec elles si vous vivez, si vous êtes une femme sourde qui vit une situation de violence. Hein. Elles sont là pour vous.
Ouais.
La Maison des hommes sourds, elle, offre aussi des cafés COVID-19 sur Zoom régulièrement. Il y a l'AQEPA, l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, Montréal Régional, qui a sur sa page Facebook plusieurs capsules de magie à faire avec les enfants et des contes traduits en langue des signes québécoise.
Okay.
Audition Québec partage sur sa page de nombreuses ressources et articles qui parlent des enjeux des personnes malentendantes. C'est entre autres un organisme qui s'intéresse beaucoup à la question des masques et des problèmes que ça peut causer pour les personnes qui lisent sur les lèvres.
Tu as le tien?
Ton
masque, oui?
J'en ai deux.
OK. OK. T'es contente du petit coup d'œil que ça te donne? T'as l'air fashion ou t'es
ben,
plus...
J'ai un côté... j'ai un masque pour mon côté givré et un masque pour mon côté blé entier.
OK.
j'en ai un marine et j'en ai un fleuri fuchsia.
Ah, c'est beau. OK. OK.
Donc, vraiment, pour toutes les humeurs. Il y a l'Association sportive des sourds du Québec qui a lancé un tout nouveau programme de yoga accessible en ligne. Et finalement, il y a un groupe Facebook Info COVID-19 LSQ qui rassemble plusieurs informations et articles traduits en langue des signes québécoise.
Tu parlais de programme de yoga. J'ai vu ce matin passer une proposition de danse pour personnes handicapées visuelles, chacun chez eux, là. Mais il y a des gens qui veulent nous inviter à danser seuls et ensemble. Pas sûr. Mais l'idée est bonne.
Du yoga, de l'activité physique aussi, on en trouve beaucoup régulièrement sur la page Facebook des Olympiques spéciaux. Il y a des séances live à différents moments de la journée.
Ah, ça, c'est une bonne idée, par exemple. OK, d'en faire plus qu'une par jour, ça, c'est une très, très bonne idée.
Le RAC, c'est aussi intéressé à la question des contrats d'intégration au travail. Les membres avaient beaucoup de questions là-dessus. Ils ont donc discuté avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sont arrivés, au résumé suivant. Si un employé est forcé de rester à la maison à cause de la pandémie et continue à être rémunéré, le CIT reste ouvert.
Okay.
Et l'employeur va continuer à recevoir les versements. Si un employé voit ses tâches changer à cause de la pandémie, mais continue à être rémunéré, le CIT reste ouvert.
Tant mieux.
Si un employé est mis à pied temporairement, le CIT reste ouvert. L'employeur ne recevra plus de versement puisqu'il ne rémunère plus l'employé. Mais tant que le lien d'emploi est conservé, tant que l'employeur compte reprendre l'employé, il ne devrait pas y avoir de fermeture de contrat. Et c'est seulement lors d'un congédiement définitif que le CIT sera fermé.
Mais j'aime ça, moi, ces règles-là. Je trouve qu'elles sont... Il n'y aura pas lieu de faire des entrevues?
Je ne sais pas. On regardera le...
En tout cas, tout est beau. Selon moi, là, tout se tient. Tout...
Pour l'instant, là...
Ouais. Ils ont ma bénédiction jusqu'à maintenant.
C'est ça, c'est parfaitement logique.
Puis,
finalement, la COFAN nous annonçait que les prochaines vidéos, parce qu'on parlait du vidéo sur comment utiliser le masque, il y avait une mauvaise vidéo description récemment, ça a été corrigé, et qu'on devrait avoir des résultats plus satisfaisants à l'avenir. L'Office a fait des recommandations de remplacement et a pris en compte les remarques du RAC. On attend des suivis correctifs apportés à la vidéo.
Hey là là, ça c'est la vidéo là dont on a parlé il y a 2 ou 3 semaines où on avait oublié de dire 20 secondes puis on avait oublié de dire le numéro puis le RAC a été obligé de la refaire.
A été obligé de demander que ça soit refait, ouais. Le RAC avait rajouté les informations.
Ouais. Hey, ça fait 3 semaines.
Ouais.
Aïe. Merci Christiane.
De rien.
On parle à François Allard, agent de défense des droits d'Ex-Éco dans quelques secondes. Ça fait sourire tellement c'est mauvais, ça. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Tu m'as rendu heureux. François, alors, vous avez été chanceux, vous avez entendu que quelques secondes de ce Locomotion. Vous êtes agent de développement, agent de défense des droits, tiens, chez Execo. On veut parler du décret souhaité, c'est que le 28 avril dernier, le syndicat québécois des employés masculins et féminins de service a fait parvenir une demande officielle au ministre du Travail pour décréter les conditions de travail dans le secteur des services d'aide à domicile, ce qui comprend notamment les entreprises d'économie sociale en aide à domicile, également les agences privées de travail temporaire et les travailleuses et travailleurs autonomes qui, eux, sont rémunérés par le chèque emploi-service. Donc, c'est notre petit coup d'œil sur le chèque emploi-service hebdomadaire. Un jour, on ne sera plus obligé d'en parler, mais François, on en est où cette semaine? Cette idée de décret, puis est-ce que ça évolue dans le bon sens, tout ce dossier-là?
Le 28 avril dernier, comme vous l'avez dit, le syndicat québécois des employés de service a envoyé une demande officielle, comme vous venez de le dire, au gouvernement. Depuis, le syndicat n'a toujours pas eu, malheureusement, de nouvelles par rapport à ça. Leur demande est toujours étudiée par le ministère du Travail.
Qu'est-ce qu'un décret de convention collective pour les travailleurs de services privés d'aide à domicile?
Ça, c'est un moyen législatif qui peut être employé par le gouvernement pour imposer des conditions de travail à un secteur particulier. C'est un moyen qui existe cependant. Historiquement, il a été très peu utilisé. L'un des exemples, ça a été pour les gardiens de sécurité, je crois, je suis pas sûr, mais je sais que tu sais, le secteur du textile a aussi un salaire minimum qui lui est spécifique. Ça serait un décret de convention collective. Puis en fait, c'est que c'est pas une syndicalisation. C'est le gouvernement qui, sur un secteur du marché du travail donné, impose des conditions de travail minimales aux employeurs. Mais donc là, ce serait pour les employés du secteur privé du soutien à l'émission.
Si on a entendu début avril M. Legault dire que à un moment donné, quand il faisait une sorte de mea culpa, approximative, il disait que il aurait dû décréter un salaire sur les préposés. Ouais. Je crois que c'était en décembre dernier. Il l'a pas fait, puis il regrette.
Ouais.
Là, on est rendu le 11 mai. Est-ce que c'est que actuellement, pour les préposés à domicile et tout ce qui s'ensuit, cette catégorie d'employés-là a été oubliée ou c'est parce qu'on hésite à faire un décret et on est en négociation avec des syndicats? Pourquoi ça bouge pas, ce dossier-là?
C'est le gouvernement, quand il a fait, comme vous dites, son mea culpa, a été assez prompt à mettre la faute sur les syndicats, comme quoi les syndicats exigeaient une même hausse pour l'ensemble des travailleurs de la santé, donc les préposés ne pouvaient pas avoir une petite affaire à eux. Cependant, ça, c'est un autre dossier, parce que là, ce dont on parle, c'est des employés qui sont non syndiqués. Le chèque emploi-service, c'est des personnes qui sont non syndiquées dans les ESAD pour l'extrême grande majorité ne sont pas syndiqués. Donc, il n'y a pas de convention collective en ce moment. Donc, qui gère ça, le syndicat des Québécois des employés et employés de service ne cherche pas à syndiquer ces employés-là. C'est pas ça qui est en... cherche à amener le gouvernement plutôt à décréter des conditions de travail.
Donc, le syndicat en question parle au profit de non-membres?
Ce ne sont pas de leurs membres.
Ah, c'est rare, ça?
Oui, parce que, comme vous le savez, c'est ça, ça peut être chèque emploi-service. Mais en fait, la raison pourquoi ils font ça, c'est à cause que, à la fois, comme vous le dites, dans les agences, au chèque emploi-service ou dans les entreprises d'économie sociale, eh bien, ce sont des catégories d'emploi qui sont extrêmement difficiles à syndiquer parce que c'est un travail qui est atomisé. Les personnes, les préposés qui travaillent là, souvent connaissent même pas leurs collègues de travail. Tu sais, il n'y a pas de lieu physique de travail où ils se réunissent.
Chacun pour soi, là. Ouais.
C'est ça, ils peuvent pas. Donc, c'est très difficile ensuite pour eux de quelqu'un qui prendrait l'initiative. Ben moi, je fais signer des cartes de membre. Tu sais, ça marche pas comme ça. Donc, pour eux, je pense que stratégiquement, finalement, ils ont compris, puis je pense qu'ils ont raison, que qu'au lieu de passer par un mode de syndicalisation classique. Tu sais, ça, c'était la meilleure stratégie, en fait, pour vraiment améliorer les conditions de travail de ce secteur-là.
Maintenant, est-ce qu'on sait si le gouvernement, à défaut d'avoir décrété, est-ce que le gouvernement est ouvert à cette proposition-là? Est-ce qu'il y a des solutions envisageables sur la table actuellement?
Je pense que le gouvernement est ouvert. Je pense que le gouvernement est ouvert parce que moi, personnellement, je sais qu'au ministère, à tout le moins, il y a les gens sont conscients, tu sais, qu'il y a un enjeu lorsqu'on en qu'il y a des enjeux qui se pointent à l'horizon lorsqu'on augmente les conditions significativement dans les CHSLD, dans les résidences, des endroits comme ça, parce que ces catégories d'emploi-là, dans les résidences, c'est aux soins à domicile, c'est des vases communicants. Mm-hmm. Donc, si tu augmentes les conditions de l'un, eh bien, c'est fort probable qu'il y a des personnes qui vont faire le pont et qui vont travailler là.
Exode. Mais ça, on le dit depuis un mois et plus, là, puis ouais, on dirait pas que ça bouge.
Non, effectivement, vous avez bien raison. Puis en fait, moi-même, je me l'explique mal. Ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines que le syndicat a mis ça sur la table. Nous autres aussi, on attend toujours, on fait pression aussi de notre côté pour amener le gouvernement à bouger à partir des moyens qui sont à notre portée. Tu sais. Chose certaine, c'est que de même que dans les résidences, en fait, aux soins à domicile, les mauvaises conditions de travail, en fait, sont dues notamment au sous-financement de ce secteur-là, dans le secteur privé à tout le moins, eh bien, causent des pénuries de main-d'œuvre qui sont tout aussi importantes que dans les résidences et les CHSLD. Puis ces pénuries de main-d'œuvre-là ont tout à fait les mêmes conséquences. Ouais. Il y a des ESAB de la région montréalaise, tu sais, qui rapportent en ce moment des réductions de services de 90% sur un mois. Donc c'est extrêmement difficile pour ces entreprises-là en ce moment d'assurer le niveau de service dont ils ont la responsabilité. Puis c'est pas par manque de volonté de leur part, c'est à cause qu'ils n'ont pas le financement nécessaire pour payer leurs employés pour un salaire qui leur permettrait d'embaucher.
C'est malheureusement, mais c'est malheureux, mais on est obligé d'en parler semaine après semaine après semaine, et c'est jamais avec le même interlocuteur, donc ça prouve combien de personnes sont en désaccord avec ce qui se passe actuellement, mais comment malheureusement c'est ça bouge pas. François Allard, merci beaucoup, François, qui est agent de défense des droits pour Ex-Éco.
Si je peux rajouter, Luc, quelque chose, un truc que je pense qui est extrêmement important, en fait, c'est que comme vous le savez, le chèque emploi-service, c'est un programme qui a été conçu pour assurer l'autonomie des personnes en situation de handicap dans la manière dont ils reçoivent leurs soins. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on craint, en fait, c'est que lors d'éventuelles négociations, eh bien, ça soit employé comme un moyen pour le gouvernement de faire une réforme qui est beaucoup plus profonde de ce programme-là et qui pourrait potentiellement mettre en jeu ce caractère-là du programme. Donc, nous, ce qu'on exige du gouvernement, c'est que lors d'éventuelles négociations qui pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines, peut-être, pour concernant ce décret-là, eh bien qu'il y ait des groupes comme le nôtre ou comme la COFAM qui soient sur la table, qui soient en mesure de négocier.
Participer à la négo, là.
En tant que représentant des usagers. Tu sais. Ça, alors que jusqu'à présent, on n'a pas eu de vent que c'est ça qui est dans les plans, mais c'est sûr que nous autres, on veut l'exiger.
Ouais, tout ça étant au conditionnel. Merci beaucoup, François.
Exact. C'est moi qui vous remercie.
If I had $1 million,
well, I'd buy
car,
a nice reliant automobile.
And if I had $1 million, I'd buy your love.
Go up there and hang out.
Like open the fridge and stuff, and there will always be foods laid out for us with little pre-wrapped sausages and things.
Mm.
They have pre-wrapped sausages, but they don't have pre-wrapped bacon.
Well, can you blame them?
Yeah.
If I had $1 million.
If I had $1 million.
Well, I'd buy you a fur coat,
but not a real fur coat. That's cruel.
And if I had $1 million,
if I had $1 million,
well, I'd buy you an exotic pet.
Yep, like a llama or an emu.
And if I had $1 million,
if I had $1 million,
well, I'd buy you John Merrick's remains.
Ooh, all them crazy elephant bones.
And if I had $1 million, I'd buy your
eat Kraft dinner.
Of course we would. We just eat more.
And buy really expensive ketchups with it.
That's right. All the fanciest Dijon ketchup.
Mm.
If I had $1 million.
If I had $1 million.
Well, I'd buy you a green dress.
But not a real green dress. That's cruel.
And if I had $1 million.
If I had $1 million.
Well, I'd buy you some art.
A Picasso or a Garfunkel.
If I had $1 million.
If I had $1 million.
Well, I'd buy you a monkey.
Haven't you always wanted a monkey?
If I had $1 million.
If I had $1 million. Bare Naked Ladies, autre groupe canadien. On est dans le If I Had aujourd'hui, soit le Rocket Launcher ou le Million Dollars. Petit extrait vidéo pour nous faire connaître Virtuose, cette technologie qui aide les personnes malvoyantes ou non-voyantes à se déplacer de manière autonome dans les bâtiments.
Et puisque nous vivons dans ce nouveau monde, eh bien, nous allons parler de nouvelles technologies. Et dans la série « Quand les innovations se mettent au service du handicap », eh bien, Yann Lavoie s'est intéressé, lui, à la trouvaille d'une start-up toulousaine qui favorise l'inclusion des mâles et non-voyants en entreprise et dans les lieux publics. Démonstration.
Le principe, c'est de représenter un plan d'étage de bâtiment qui est imprimé en 3D sur lequel nous matérialisons sous forme de symboles des repères indispensables. Les personnes, du coup, malvoyantes et non-voyantes, vont se servir du toucher pour découvrir le plan, avoir une image mentale claire de l'espace et en appuyant sur les symboles
accueil du bâtiment, ascenseur B,
elles auront des informations sonores pour leur permettre de se déplacer en autonomie à l'intérieur de l'étage. On peut cartographier tout type d'endroits, que ce soit pour des entreprises, mais ça peut être aussi pour des musées, ça peut être pour des aéroports, des gares. Tous les lieux en fait, où les personnes déficientes visuelles ont la possibilité de s'y rendre. Pourquoi ce produit pour les personnes déficientes visuelles? Parce qu'en fait, on est parti d'un constat qu'une personne, quand elle est à l'intérieur d'un bâtiment, elle n'a pas la possibilité de s'y déplacer seule. Et l'impression 3D peut nous permettre justement de combler ce manque qu'il y a au niveau des déplacements. Les entreprises aiment ce produit pour permettre en fait d'avoir une équité entre leurs salariés. C'est-à-dire que chaque personne, qu'elle soit en situation de handicap ou non, aura la possibilité de se déplacer de la même façon à l'intérieur du bâtiment.
Alors cette technologie, c'est Virtuose, mis de l'avant par Free Object, on rejoint la directrice générale et cofondatrice de la start-up. On dit Favi Huin, Céline?
C'est parfait.
Favi
Bonjour,
Huin.
Luc.
Bonjour, fait plaisir. Oui. Je me suis demandé, en écoutant cette vidéo sans la voir, est-ce un petit peu la maquette tactile semblable au panneau? Je sais que nous, au Québec, lorsqu'on entre dans un centre commercial, il y a toujours ce petit panneau. Vous êtes ici, et là, il y a tout le layout, là, vous allez comprendre ça, c'est en anglais, du centre commercial. Est-ce que c'est un peu la même chose, mais en 3D?
C'est exactement ça. Ça permet à la personne, en fait, de comprendre comment est fait l'environnement qu'il y a autour d'elle, avec les différentes informations sonores qui viennent enrichir la découverte de Virtuose. Et grâce à ces informations sonores, en fait, elle prend connaissance de ce qui l'environne et elle devient libre de choisir le chemin toute seule pour se déplacer dans cet espace.
Donc, ce n'est pas une application que je vais télécharger sur mon téléphone, c'est bien une maquette que le lieu va payer pour faire créer, pour produire.
C'est exactement ça, Luc. Là, nous vendons Virtuose à tous les établissements qui reçoivent du public et aux entreprises qui, eux, le mettent à disposition de leurs utilisateurs déficients visuels. Donc, si on prend l'exemple du centre commercial, comme vous venez de dire, nous, on va le vendre au centre commercial. On a deux versions de Virtuose. On a une petite version portable que la personne peut amener avec elle dans une sacoche.
Ça, c'est sympathique. OK.
Et après, comme ce que vous avez dans les centres commerciaux, une borne, un Virtuose grand format qui est fixe et qui va donner cette connaissance globale.
Parce que, si j'y vais qu'une seule fois à l'aéroport, je risque de demander un coude là, pour me déplacer. Mais si je travaille, là, si j'y vais régulièrement, là, évidemment, j'ai intérêt à connaître la façon de me déplacer de façon adéquate et sécuritaire. Ça coûte combien? Ça prend combien de temps produire Virtuose?
Juste pour compléter par rapport à l'aéroport, par exemple, ça peut dépendre si la personne elle souhaite se déplacer seule pour aller à la porte d'embarquement ou si elle a besoin d'être accompagnée. En ce qui concerne le prix, je vais vous les donner en euros. Donc, le Virtuose grand format coûte à peu près 5000 euros.
Okay.
On propose une maintenance supplémentaire en option pour différentes mises à jour, des changements de plan. Et sur le Virtuose Mini, la version portable, ce qu'il faut savoir sur Virtuose Mini, c'est qu'avec un même support électronique, on peut venir positionner différents plans. Donc, ce qui permet avec le même boîtier à la personne de pouvoir accéder à de multiples espaces qui peuvent être aussi multilingues. Et là, si on part sur l'équipement de deux Virtuose, sur un Virtuose Mini sur un bâtiment qui représente à peu près 3 étages, on est à entre 5 500 et 6 000 euros hors taxes.
Bon, bien que moi, ça fasse peu de temps que je connaisse Virtuose, c'est pas nouveau en France. Est-ce que ça a sorti de l'Hexagone? Est-ce qu'il y en a au Québec ou au Canada? On trouve ça où?
Alors, pour le moment, on trouve ça uniquement en France.
OK.
Donc, Virtuose Mini est commercialisé depuis été 2018, Virtuose Grand Format depuis à peu près un an. Donc aujourd'hui, on est seulement en France, mais notre ambition, c'est bien sûr d'aller à l'international. Et on sait que, particulièrement à Montréal, il y a vraiment de grosses initiatives qui sont faites sur le handicap. Et ça fait partie de nos pays cibles pour notre ouverture à l'international.
Est-ce qu'avec des gants, bien que ceux-ci puissent être très minces, c'est quand même assez facile de s'y repérer parce qu'on est à l'ère du gant, là, par les temps qui courent, pour toucher?
Oui. On a déjà travaillé depuis quelque temps sur un matériau antibactérien qui est facilement nettoyable. Donc ça, c'est depuis le départ, en fait, c'est quelque chose qui nous a toujours, on s'est toujours soucié. Un produit que nous vendons, mais notre objectif, c'est le bien-être et la satisfaction de l'utilisateur final. Et cette satisfaction passe également par la sécurité d'utilisation du produit.
On
continue de travailler sur ça, mais ça fait partie de notre ambition aussi.
Est-ce que c'est le genre de truc, disons, où on peut partager, vendre le brevet pour que d'autres pays et d'autres compagnies puissent vous imiter, ou vous voulez vraiment prendre le contrôle de la production de ce genre de maquette?
Alors, on a un brevet effectivement dessus. C'est pas une question qu'on s'est posée aujourd'hui de vendre le brevet, mais on n'est pas non plus fermé à des ouvertures possibles. Notre objectif, c'est que le plus possible d'utilisateurs finaux utilisent des produits tels que Virtuose. Donc forcément, plus il y aura de concurrents et plus il y aura de personnes qui seront équipées au final.
Oui, oui. J'imagine, bon, selon la grandeur, c'est ça, le temps de production varie. Ce que l'on souhaite, c'est qu'éventuellement, le bouche-à-oreille se fasse et qu'il y en ait de plus en plus. Peut-être même une loi cadre qui pourrait obliger les centres publics à se doter d'un Virtuose.
Oui. Donc je vais compléter par rapport à la question que vous m'avez posée juste avant. Notre temps de fabrication, c'est environ 2 mois aujourd'hui.
OK.
Après, par exemple, en France, la loi accessibilité de 2005 impose beaucoup de choses au niveau des établissements qui reçoivent du public. Il y en a seulement un tiers ici en conformité avec l'accessibilité. Mais la difficulté de cette loi, c'est que l'accessibilité va couvrir tous les types de handicaps.
Je suis obligé de vous laisser aller, malheureusement, mais merci beaucoup,
oui.
Beaucoup, Céline Favy.
Merci beaucoup, Luc.
Merci également à Christiane et Jean-Sébastien. On n'est pas là lundi, de retour le 25.